le premier message la semaine dernière, Incrédulité quand il nous tient. Et j'ai réfléchi un peu à un titre de message que je pouvais vous donner en plus ce matin. J'en ai pas trouvé. Alors j'ai dit, Incrédulité quand il nous tient, bis, c'est facile, c'est simple, mais ça va vous illustrer tout à fait ce que nous allons regarder ce matin. Parce que quelque part, je me dis, les compatriotes, donc les voisins que Jésus avait donc à Nazareth, ont manifesté cette incrédulité à partir du chapitre 6. Et nous voyons que Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth parce que le cœur de ces personnes manifestait réellement de l'incrédulité. Quoique le texte nous dit vers la fin, que comme Jésus voyait de leur incrédulité, il n'a pas manifesté cette envie, en tout cas, de faire des miracles. Mais Dieu est bon, Jésus est bon, et le texte nous montre bien aussi qu'il a fait quand même quelques miracles. Verset 5, il put faire là aucun miracle, si ce n'est que imposer les mains à quelques malades et les guérir. Donc je me dis quand même, certains ont été guéris et quelques malades ont eu les mains imposées de la part du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, Dieu a manifesté quand même son amour vis-à-vis des personnes qui venaient le voir. Maintenant, nous allons voir un petit peu. Nous avons vu donc l'incrédulité des compatriotes du Seigneur, donc les gens qui habitaient à Nazareth, où nous voyons le cœur était fermé. Mais aujourd'hui, on va voir que l'incrédulité ne s'est pas arrêtée à Nazareth. L'incrédulité ne s'est pas arrêtée en Galilée. L'incrédulité s'est propagée dans tout le pays. Et aujourd'hui, nous allons voir l'incrédulité de ses ennemis, donc entre autres Hérode Antipas, qui a manifesté vraiment de l'incrédulité vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que l'évangile est même allé dans les palais de l'époque, que les gens du palais connaissaient ce qui était en train de se passer en Palestine. Ces gens ont vu certaines choses, ont entendu certaines choses, ont même vu les miracles que le Seigneur a fait, mais malgré ça, ils n'ont pas changé leur cœur, ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, donc l'incrédulité ne s'est pas arrêtée uniquement à Nazareth. Elle a continué aussi chez les ennemis, et nous allons voir aussi, malheureusement, dans ce texte, que l'incrédulité a été aussi manifestée, malheureusement, chez les disciples. Ce matin, je ne vais pas lire la continuité de l'évangile de Marc, tout simplement du chapitre 6, parce que c'est long, et il y a beaucoup de lectures et que je ne pourrais peut-être pas aborder tous les sujets de ce matin. Mais prenez le temps, Marc va revenir sur le meurtre de Jean-Baptiste à partir du verset 14 de l'évangile donc, de Matthieu, chapitre 6. Et il va expliquer pourquoi Hérode, à un moment donné, Hérode Antipas a fait ce genre de choses à un moment donné. Et puis, juste après cet événement, eh bien, vous avez la multiplication des pains pour les 5000 âmes et Jésus qui a marché sur les eaux pour la deuxième fois et qui est venu voir les disciples. Alors, on va regarder ces textes un petit peu. Certains, on va les survoler, je dois bien l'avouer, mais je voudrais vous montrer un autre texte que j'ai pris dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, le chapitre 3. Parce que c'est, quelque part, c'est la leçon que je voudrais qu'on retire au travers de ces quelques passages. Nous voyons que le monde est incrédule, les voisins peuvent être incrédules, les gens de la haute société peuvent être incrédules, les disciples, malheureusement, ont été aussi incrédules. Et la question que je me suis posée, que je vous ai posée la semaine dernière, est-ce qu'un chrétien peut être incrédule vis-à-vis de certaines choses qui lui arrivent dans sa vie? Je pense que oui. Je pense que parfois, on manifeste réellement de l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que vous avez un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 3. Et je voudrais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse dans la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent, et donc les cadavres tombèrent dans le désert. Et qui, à qui jura-t-il de n'entendrait pas dans son repos, n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Alors voilà quelques questions qui peuvent se poser à nous parfois. Est-ce qu'il nous arrive dans notre cœur d'avoir un cœur incrédule? Que la personne qui soit parfaite ici ce matin lève la main. Je vais la rabaisser assez rapidement parce que la question qui suit, elle est tout simple. Est-ce qu'il ne nous est pas arrivé dans notre vie de manifester de l'incrédulité? Alors, bien sûr que nous avons le Saint-Esprit. Bien sûr que l'Esprit de Dieu vit en nous. Mais dans certaines situations, il faut bien avouer que nous manifestons bien souvent, comme le peuple d'Israël, avec un cœur endurci. On voit des choses merveilleuses parfois dans notre vie. On vit des moments forts dans notre vie. Et quand arrivent les épreuves, quand arrivent les difficultés, on a l'impression qu'il y a une neurone dans notre tête qui dit « oublier, effacer, je ne me souviens plus de rien ». C'est ce que je suis en train de vivre avec ma belle-mère à l'heure actuelle. Alors vous savez que j'ai ma belle-mère à l'heure actuelle à la maison, j'en parle assez souvent, mais ma belle-mère, au plus elle avance dans son âge, au plus elle dit « j'ai oublié Nicolas, je ne me souviens plus de certaines choses ». Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine parce que mon épouse me rappelle souvent que quand elle était jeune, ma belle-mère était dynamique, elle faisait des kilomètres pour aller acheter à manger pour ses enfants, qu'elle cavalait, elle faisait des épinés jusqu'à la gare en Loup-Boussy, enfin pour ceux qui la connaissent, cet endroit. Donc, elle faisait des kilomètres, elle marchait, et aujourd'hui, elle me dit souvent, j'ai oublié, je ne me souviens plus de rien. Et je trouve que parfois, on a un comportement, en tant que chrétien, dans la même lignée de ce genre de situation, parfois, on voit des bonnes choses arriver dans notre vie, et parfois nous faisons comme ces personnes, nous oublions, nous sommes incrédules, nous ne voulons pas voir la bonne grande main de Dieu, la main remplie de bonté. C'est l'exemple des Hérode Antipas. Hérode Antipas était un roi qui connaissait, qui voyait la main du Seigneur Jésus-Christ, qui voyait des miracles, même en cachette. Il allait écouter le Seigneur Jésus-Christ en cachette. C'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile de Luc qui nous rappelle cela, c'est-à-dire que Hérode savait qu'il était tourmenté dans son esprit par rapport à la situation qu'il était en train de vivre, mais malgré le fait de voir certaines choses, eh bien, dans son esprit, il ne voulait pas se repentir. Dans son esprit, il ne voulait pas cesser de vivre dans sa façon de vivre. Il ne voulait pas cesser sa manière de vivre, de se repentir et d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez ce texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, et les versets 7 à 9 qui dit « Hérode de Tétraque entendit parler de tout ce qui se passait. Il était au courant. Il était au courant de tout ce qui se passait en Galilée. C'était le gouverneur, enfin il était appelé roi, mais c'était le gouverneur de la Galilée. Vous pensez bien qu'il était bien au courant de tout ce qui se passait en Galilée. Et il ne voyait que, savait que penser. Car les uns disaient que ces gens qui étaient ressuscités des morts, d'autres Élie était apparu, et d'autres qu'un ancien prophète était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci, donc j'entends dire de telles choses, il cherchait à le voir. Alors vous pouvez bien imaginer qu'il ne devait pas aller sur son beau cheval blanc, aller voir le Seigneur Jésus-Christ, il allait le voir en cachette. Il devait y avoir sûrement à Jérusalem des souterrains pour aller visiter sûrement sur les places publiques des personnes comme cela. Et Jésus était très connu, sa renommée était de plus en plus connue. Jésus avait même dans le chapitre que nous avons lu, chapitre 6, Jésus avait envoyé ses disciples en mission. Le but de l'envoi de ses disciples, c'est de faire des choses extraordinaires. Vous pouvez imaginer qu'à l'époque, ça devait bousculer les consciences du fait de voir de belles choses, de grandes choses arriver. Et entre autres, Hérode Antipas, qui lui était en train de vivre un moment assez particulier avec Hérodiate, eh bien, n'a pas voulu du tout, à un moment donné, se convertir ou accepter ce que le Seigneur, le message du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'Hérode Antipas vivait? Eh bien, il avait épousé une fille du roi Arétas IV et avait ensuite divorcé avec cette personne. Et afin de pouvoir épouser donc Hérodiate, avec qui il était, femme de son demi-frère. Voilà un petit peu la situation d'Hérode Antipas. Il s'est mis avec quelqu'un, presque c'était sa sœur en réalité, avec qui il était. La loi de Moïse l'interdisait. C'est-à-dire, si vous lisez Lévitique chapitre 18, le Seigneur avait interdit cela. Et Jean-Baptiste avait dénoncé ce péché, ce qui n'avait pas du tout plu à l'époque au palais. Hérode ne savait pas trop où se positionner. Lui, il était en train de vivre le péché, mais après tout, il vivait les bons moments dans le péché. Par contre, c'était Hérodiate qui, elle, voulait la tête de Jean-Baptiste et a fait condamner donc Jean-Baptiste en lui coupant la tête. Vous avez toute cette situation vécue là, à partir du verset 14, tout expliqué, où à un moment donné, au cours d'un dîner dansant, mais au cours d'une festivité dans le palais, eh bien, Hérode a fait des promesses à un moment donné, et Hérodiate a profité de cette occasion pour faire danser sa fille Salomé devant le gouverneur de l'époque, et bien sûr, une fois qu'il avait fait ses imprécations, il ne pouvait plus revenir en arrière. Eh bien, la mesure fut prise, Jean-Baptiste a été décapité. Ce qui est étonnant, c'est que les religieux de l'époque n'ont pas bougé par rapport à la situation. C'est-à-dire que Jean-Baptiste était venu à un moment donné mettre aussi un petit peu du chamboulement dans l'époque, mais les religieux de l'époque, je dirais, ils l'ont décapité, tant mieux pour nous, on peut continuer nos petites affaires. Ça m'a fait penser à ce personnage, à Achab et Jézabel dans 1 Roi chapitre 18, vous savez, où ils complotaient contre Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, Hérode Antipas était dans un siège donné par Hérode le Grand, mais en même temps, il n'était pas forcément il faisait des choses que Dieu ne l'aurait pas. Et les Juifs aimaient bien parfois comploter même avec lui par rapport à certaines situations. C'est navrant, n'est-ce pas, de voir ça. Mais je me dis, vous savez, dans notre société, vaut mieux pas être parfois une petite souris qui rentre dans certains bureaux pour voir certains complotages de certaines personnes. Certains vous diront, moi je voudrais me trouver parfois dans le bureau ovale aux États-Unis pour voir exactement ce que ce président dit. Ou certains diront, moi je voudrais bien aller à l'Élysée de temps en temps pour voir ce qui se passe. Vous savez, des fois il vaut mieux pas aller dans ces endroits-là. On serait étonné, surtout quand ils vous diront, l'année prochaine les impôts augmentent. Moi je les attraperai, je les étranglerai. Enfin bon, ça c'est mon avis, mais vaut mieux pas entendre ça. On l'entend après par un journaliste qui a eu une petite voix à un moment donné, mais vous savez, quand les gens complotent, malheureusement, c'est bien souvent dans des endroits où on a... Ouais, vaut mieux pas entendre tout ce genre de choses. En attendant, on peut se poser la question. Hérode Antipas a refusé l'évangile. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce personnage? Alors, Jésus l'a appelé le renard. Mais ça illustre bien le personnage. Hérode était vraiment un renard, était un personnage rusé. La Bible nous montre qu'il était un personnage rusé par différentes situations qu'il était en train de vivre. Même quand, à un moment donné, Jésus a été crucifié, apporté à la crucifixion, Jésus n'a pas du tout entendu ce qu'il voulait, parce qu'à un moment donné, il lui dit de faire quelques miracles pour amuser Hérode, et Jésus n'a pas répondu à ce personnage. Et je pense que dans notre société, si vous rencontrez des Hérode Antipas, faites comme le Seigneur Jésus-Christ. Taisez-vous. Ne dites pas du mal de quelqu'un, et après vous dites tout le contraire. C'est ce qui est arrivé à Mélenchon il y a quelques jours. Il disait quelque chose publiquement à un moment donné, et quand il a rencontré le président Macron, il a fait comme si rien ne s'était passé. Voyez-vous, bien souvent, je me dis des fois, il vaut mieux se taire avec les renards. Et je trouve que bien souvent, au lieu de jouer de l'hypocrisie, ce qui était flagrant vis-à-vis de Mélenchon et de Macron, ils ont joué de l'hypocrisie en se serrant la main. Mais je me dis, les uns et les autres, sûrement ils ont dû se faire du mal, hein. Quelques-uns en tout cas, se sont fait du mal. Alors, l'hypocrisie n'est pas chez les chrétiens, et ne doit pas être chez les chrétiens. Nous ne devons pas nous serrer la main si on n'a pas envie de se serrer la main. Nous ne devons pas vivre la communion fraternelle si on n'a pas envie de vivre la communion fraternelle. Si vous avez un problème avec un frère et une sœur, le texte nous le dit clairement. Comment on peut dire qu'on aime Dieu si on haït son frère? Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas jouer de l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas là, et je vous le dis franchement, derrière cette chair, ne jouons pas de l'hypocrisie. Si vous avez un problème avec un frère et une sœur, allez le régler. Parce que si vous ne le réglez pas, ce problème, un jour, Dieu va se charger de cela. Voyez-vous, à un moment donné, je pense qu'il faut être clair avec le Seigneur. Il faut être transparent avec le Seigneur. Et je pense que la situation que la nation d'Israël a vécue, à un moment donné, a mis ce peuple dans le désert pendant 40 ans. Alors vous allez dire, mais je ne veux pas vivre le désert pendant 40 ans. Je ne veux pas que le Seigneur me mette à part pendant 40 ans. Je ne veux pas que Dieu m'enlève ce fameux chandelier de la gloire de Dieu qu'il a mis en moi pendant 40 ans. Personne n'a envie de vivre le désert. Mais si tu as un problème avec ton frère, va le régler. Va régler ce problème, parce que je pense que c'est très important d'être en paix avec le Seigneur. D'être en paix avec les personnes. D'être en paix avec les situations. Ça libère. Libère ton cœur. Moi j'ai envie de dire, libère ton cœur complètement avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors que devient Hérode, Antipas? Quelle est la fin de cet homme? L'histoire nous dit qu'en 39 après Jésus-Christ, Hérode Agrippa, qui est parlé dans Actes chapitre 12, verset 1, son neveu, a dénoncé la situation à l'empereur romain. Donc à l'époque, si on vivait quelque chose un petit peu étrange, il y avait toujours quelqu'un qui venait derrière ton dos pour dénoncer la situation. Eh bien, l'empereur romain a entendu ça et il a démis de ses fonctions donc Hérode Antipas et Hérodia, qui étaient gouverneurs, enfin lui disait qu'il était roi, mais gouverneur de la Galilée et de la Pérée, donc le petit territoire, là où c'est qu'il se trouvait, et il a été exilé. Alors, où ça? Eh bien, si vous allez sur Wikipédia, ils vont vous le dire où il a été exilé. Selon les écrits antiques judaïques, donc de Flavius Joseph, un historique de l'Antiquité, eh bien, il dit tout simplement que Antipas a été banni à Lugdunum. Alors, Lugdunum, si vous connaissez un petit peu le latin, comme moi, le latin, c'est Lugdunum, c'est Lyon. Alors, certains ont pensé qu'il a été exilé à Lyon. Mais voilà que un autre récit, La guerre des Juifs, donc un livre qui a existé aussi à l'époque, dit qu'il a été plutôt banni en Hispanie. Donc, quand on regarde un petit peu un autre nom qui se retrouve là, c'est Lugdunum Convanarum, excusez-moi pour mon latin, mais c'est Saint-Bertrand de Comigne qui se trouve juste à côté de la frontière dans les Pyrénées. Et si vous allez là-bas, dans la Haute-Garonne, vous allez trouver des ruines antiques de thermes et d'un forum qui existe à l'heure actuelle romaine. Donc c'est sûrement là où Hérode, Hérodiate et sa fille Salomé s'est retrouvée. On ne connaît pas ni son cercueil, on ne sait pas où il est mort, on ne connaît pas, il n'y a rien qui est resté de lui. Mais je me dis, mais est-ce qu'il y avait besoin qu'on se rappelle de ce monsieur qui à un moment donné a refusé d'entendre parler de Jésus, qui a refusé de changer sa situation, qui a refusé de se repentir à un moment donné, est-ce qu'il y avait besoin qu'on se rappelle de lui? Ça me fait penser à ce texte. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui restent incrédules parce qu'ils veulent rester dans leur situation. Ils sont bien dans leur situation et ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas demander pardon à Jésus de leur situation. Et Dieu les laisse là où c'est qu'ils se trouvent. Et même, malheureusement, bien souvent, cela se retourne contre eux. Alors, incrédulité, quand tu nous tiens, eh bien, je pense que nous devons faire très attention quand l'incrédulité nous tient. Et je pense qu'en tant que chrétien, nous devons faire très attention non plus de se rappeler que si nous endurcissons notre cœur, eh bien, le Seigneur peut aussi, à un moment donné, agir avec nous avec fermeté. Dieu châtie celui qu'il aime. C'est pas moi qui le dis, c'est un passage qui se trouve dans la parole de Dieu. Si vous êtes un enfant dur, un enfant rebelle, Dieu va se charger de vous à un moment donné. Alors ne manifestons pas du mauvais, de l'incrédulité, mais manifestons de l'amour les uns pour les autres. Troisième incrédulité, il se trouve aussi dans le passage, ça c'est les disciples. Vous avez la multiplication des pains. Alors là, c'est une situation qui est vraiment extraordinaire, faut bien l'avouer. J'ai eu du mal à multiplier mon pain à la maison, mais là, en tout cas, le Seigneur va nourrir 5000 personnes, et c'est sans compter les familles et les enfants, parce qu'il y avait aussi des enfants qui étaient là. Donc c'était une grande multitude de personnes. C'est le seul miracle qui se trouve dans l'évangile, dans les quatre évangiles, la multiplication des pains. Un des rares miracles que nous trouvons dans les quatre évangiles. Vous le trouvez dans Marc, chapitre 6, c'est le texte que nous avons ici. Vous le trouvez dans Matthieu, chapitre 14. Vous le trouvez dans Luc, chapitre 9. Et vous le trouvez dans Jean, chapitre 6. Donc c'est intéressant de voir que cette multiplication, eh bien, elle est intéressante à voir quelques enseignements par rapport. La foule avait un problème, et Jésus a dit, voilà, c'est votre problème. Moi j'aime bien le Seigneur Jésus-Christ quand il dit, on a un problème, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Ça me fait penser, vous savez, au diacre. qui était dans la première église. On en a parlé récemment, enfin, plusieurs fois, on en a parlé. Quand les veuves ont eu un petit problème, enfin, elles se sentaient, à un moment donné, l'église a été confrontée au fait que, ben voilà, il faut choisir là des diacres, des diaconesses, des personnes qui s'occupent, enfin des diacres, pardon, dans le texte, qui s'occupent de ces personnes qui avaient des besoins. C'est votre problème, d'accord? Ceux qui devaient enseigner continuaient à être enseignés, et ceux qui devaient servir devaient continuer à servir. Il y a eu un choix à un moment donné de diacre prononcé dans la parole de Dieu qui montre bien clairement que quand il y a un problème, on doit y répondre. Et en tant qu'Église, je le dis franchement, quand il y a un problème, on doit y répondre. Alors, ça ne doit pas être une réponse, je dirais, comme certains attendent bien souvent, un claque du doigt, et on répond. Ça serait tellement facile de faire comme cela. J'ai un problème d'argent, je vais voir mon banquier. Oui, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Moi, à chaque fois que je suis allé voir mon banquier, il m'a dit oui, il y a tant d'intérêts. Tu me demandes tant d'argent, il y a tant d'intérêts. Moi, pour moi, c'est un problème résolu avec un autre problème, parce qu'à un moment donné, les intérêts pour les payer. Avec le Seigneur Jésus-Christ, ça ne marche pas comme ça. Il y a un problème, et le problème, c'est aux disciples d'arranger cette situation. Nous avons là des personnes qui ont faim. André se retourne vis-à-vis de la situation. Il a quelques corbeilles, quelques pains, quelques poissons là. Et le Seigneur, dans sa grande gloire, va multiplier. Tout le monde est revenu, affamés qu'ils étaient, tout le monde est revenu sans, je dirais, le ventre bien plein. Mais ça a été aussi l'occasion que le Seigneur enseigne le pain de vie, qu'il était le pain de vie. Moi, je trouve merveilleux que ce problème a été résolu par le Seigneur par un enseignement. Il était le pain de vie. Et je trouve que bien souvent, en tant que disciple de Jésus-Christ, on devrait réagir comme cela. Je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail avec ces textes, parce que j'ai déjà prêché là-dessus il n'y a pas longtemps, mais n'est-ce pas le serment qu'on voudrait apporter aux personnes qui viennent parfois toquer à notre porte en disant tout simplement « Jésus-Christ est le pain de vie ». J'ai un problème, j'ai une situation difficile, j'ai voilà, une situation que je suis en train de vivre, eh bien, au lieu d'être des fabricants, on devrait être des distributeurs de l'Évangile. Et je trouve que bien souvent, nos problèmes, on les résout assez rapidement, vous savez, mais quand c'est mis sous la houlette de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il y a des miracles qui en surgissent. Et je trouve que bien souvent, on a la même attitude vis-à-vis de notre situation. Moi, je voudrais vous parler de la situation que nous avons vécue cet été. Quand je regarde l'Église en elle-même, alors à l'intérieur, elle a été refaite, Dieu merci, mais à l'extérieur, il y a aussi des choses à refaire. Et quand, il y a quelque temps, on m'a dit, eh bien, écoutez, dans tel endroit, il y a de l'argent, vous pouvez les prendre pour faire les travaux. Je me dis, mais c'est quand même un miracle. Enfin, moi, loin de mon esprit qu'on avait une banque où on pouvait se servir de temps en temps. Mais l'Église n'a pas payé un seul centime pour les fenêtres que vous avez au premier étage. Tout l'argent est venu d'autres églises, d'autres services, d'autres personnes qui ont vraiment à cœur. Je l'ai dit la semaine dernière, mais vous devez prendre conscience qu'il y a des frères et des sœurs qui pensent à vous, qui prient pour votre église, qui prient pour votre situation. Alors j'envoie une circulaire tous les 3 ou 4 fois par an, donc j'explique un peu les situations que nous sommes en train de vivre, et je suis très reconnaissant de voir qu'il y a des personnes qui pensent à vous. Ils pensent à nous dans notre ministère, mais ils pensent aussi à votre bien-être. Vous n'avez pas envie de dire merci pour ça? Moi, je suis reconnaissant. On avait de belles fenêtres au sous-sol. On a 7 magnifiques fenêtres au premier étage. Et c'est pas fini. Vous voulez mon sentiment? C'est pas fini. on va faire encore d'autres choses pour améliorer notre bien-être dans ce bâtiment. C'est pas terminé. Dieu prend soin de vous. Dieu voit ce que vous êtes en train de vivre ici. Dieu prend soin de son Église. Là où elle se trouve, Dieu prend soin de son Église. Dieu peut multiplier à éternité. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, Dieu peut multiplier encore. Après tout, on est en face de Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Vous avez ce texte dans la Genèse, chapitre 22, verset 14. Est-ce que vous croyez à ce verset? Est-ce que vous croyez que l'Éternel pourvoit à vos besoins? Alors, il pourvoit aux besoins de son Église, et on le voit, Dieu le manifeste. Mais en même temps, est-ce que vous croyez que Dieu pourvoit à vos besoins personnels? Je pense que oui. Et parfois, il m'arrive de voir que Dieu peut, dans une situation, dans un petit truc qui peut arriver. En Suisse, j'ai plusieurs amis maintenant. Enfin, avant, je n'avais qu'un seul. Il s'appelait Peter Gertinger. Alors, je peux en parler, puisqu'il n'est pas là. Mais Peter est un frère que j'ai rencontré au cours de l'Institut biblique à Lange. Il œuvre aujourd'hui, il travaille donc à Zurich, à l'aéroport de Zurich. Il est responsable de la sécurité. Et on a gardé un lien de fraternité avec cet homme et sa famille. Il a 7 enfants, je prie souvent pour sa famille, qui vit des moments parfois difficiles. Mais c'est un homme qui aime le Seigneur. Et de temps en temps, dans son amour, il m'envoie une petite enveloppe. Alors j'ai toujours peur quand je reçois une enveloppe, parce qu'à chaque fois elle m'a étonné, de la Suisse. Alors je lui ai dit récemment, envoie-moi plutôt des emails, comme ça tu ne pourras pas faire ce que tu fais. Mais il nous a envoyé une petite enveloppe à mon épouse et à moi-même. Ça a répondu immédiatement à un besoin que nous avions dans notre situation à la maison. C'est pas merveilleux ça? Alors ayez des amis en Suisse, ayez des amis aux États-Unis, ayez des amis où vous voulez, mais Dieu répond toujours à nos attentes à un moment donné. Je pense que Dieu répond parce qu'il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu qui veut manifester sa grande bonté. Et nous parfois, vis-à-vis de certaines situations, nous sommes comme ses disciples au manifeste de l'incrédulité. Au manifeste de l'incrédulité. Regardez les disciples de Jésus-Christ. Ils venaient de voir la nourriture de 5000 âmes plus les enfants. Donc c'est quelque chose d'incroyable. D'accord? Et juste après, le Seigneur les envoie donc, dans le lac de Galilée. Et là encore, ils vont montrer de l'incrédulité. En tout cas, beaucoup de personnes dans le bateau vont montrer de l'incrédulité. Je pense qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on voit des choses merveilleuses se réaliser. Au lieu de se mettre à genoux, de dire, ben, je reconnais, Seigneur, que tu es un grand Dieu. Je reconnais que tu es un Dieu de bonté, que tu manifestes ta grandeur dans cette Église. Au lieu de reconnaître ça, eh bien, parfois, on joue de l'incrédulité. On ferme notre cœur. On s'endurcit. On ne veut pas régler les problèmes. Et je trouve que ce n'est pas du tout à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais terminer par un psaume. C'est un psaume que vous connaissez très très bien, que sûrement vous lisez régulièrement à la maison. Mais je voudrais terminer par ce psaume ce matin pour ma conclusion de l'exhortation. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je voudrais juste conclure que l'Éternel veut vous donner du bonheur et de la grâce tous les jours de votre vie. Amen.
Amen.